Deutsche Welle. Droits et libertés.
Ce différent vécu des personnes après des faits qui ébranlent, hein, qui ébranlent non seulement le juge, mais aussi l'être humain qui se trouve derrière le juge. C'est tout ce questionnement que j'ai voulu, après effectivement avoir terminé quand même une série d'enquêtes, pouvoir quelque part partager certaines réflexions à ce sujet-là, parce que je pense qu'effectivement, il y a des enjeux derrière tout cela.
Le vécu dont il est question ici, c'est celui du génocide de 1994 au Rwanda. Un ouvrage publié il y a quelques jours en Belgique apporte un nouvel éclairage sur ce drame absolu. Nous entendrons son auteur. Nous évoquerons ensuite l'antagonisme entre profit économique et respect des droits de l'homme. Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce magazine qui vous est proposé par Marie-Ange Piron. Le génocide rwandais a déjà inspiré beaucoup de livres. Je pense notamment à l'énorme ouvrage de la regrettée Alison Desforges, « Aucun témoin ne doit survivre ». Je pense aussi à la trilogie de Jean Hatzfeld, « Dans le nu de la vie », Une saison de machette et la stratégie des antilopes. Le livre qui vient d'être publié à Bruxelles par le GRIP, le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, s'intitule « Comment devient-on génocidaire ?». Il a la particularité d'être écrit par un magistrat belge, Damien van der Merch. C'est à lui qu'a été confiée l'instruction des premiers cas de génocidaires présumés jugés en Belgique. Pendant son travail d'instruction, il a effectué 8 missions rogatoires au Rwanda, dont 3 en 1995. Lors du premier procès à Bruxelles, la défense des parties civiles lance aux jurés cette mise en garde citée dans le livre.
Vous allez être confronté à l'indicible. Vous allez voir des images insoutenables, des enfants mutilés, les coups de machette inscrits dans les corps, des charniers où s'entremêlent les corps de femmes, d'hommes, d'enfants, de bébés tués dans les bras de leur mère. Vous allez avoir envie de fermer les yeux pour ne pas voir. Vous allez avoir besoin de courage pour entendre et écouter. Vous allez porter ce poids pendant longtemps. Ce sera lourd et douloureux.
Avant de donner la parole à Damien van der Merch, il vaut peut-être la peine de bien recadrer le mot génocide. C'est un terme qui est souvent employé maintenant à tort et à travers. Un massacre de masse n'est pas forcément un génocide. Il y a dans le mot génocide la racine grecque « génos » qui signifie « genre » ou espèce. Un génocide est donc l'extermination physique, intentionnelle, systématique et programmée d'un groupe ou d'une partie d'un groupe en raison de ses origines ethniques, religieuses ou sociales. Au Rwanda, il s'agissait en l'occurrence d'exterminer les Tutsis. Damien van der Merch au micro de Gaëtan Padjeba.
Nous avons rencontré victimes, témoins et auteurs, et comme il s'agit de crimes de masse, ces personnes étaient très nombreuses. Donc on a eu vraiment beaucoup, beaucoup de témoignages. Et c'est vrai que dans un premier temps, c'est surtout les victimes où on est confronté à l'horreur absolue. On a vraiment des difficultés à concevoir l'horreur absolue. On préférait des fois ne pas entendre ce qui dépasse l'entendement. Puis on a rencontré alors pas mal d'accusés, de personnes suspectes, quelques-uns en aveux, plutôt des aveux minimalistes parce que ce n'est pas facile à avoir. Avoué de tels faits, et alors pas mal d'autres qui niaient les faits, mais dont les déclarations étaient quand même intéressantes. Et donc cette confrontation, effectivement, avec ce différent vécu des personnes après des faits qui ébranlent non seulement le juge, mais aussi l'être humain qui se trouve derrière le juge, je pense qu'effectivement, il y a des enjeux derrière tout cela.
Les différents témoignages recueillis au Rwanda vous ont aussi permis d'explorer le contexte historique de cette tragédie. Dans quelle mesure cet aspect a-t-il pu impacter sur les causes de ce génocide ?
Oui, alors je pense qu'il y a un contexte qui est évidemment déterminant. Si on prend le premier procès d'assises qui a eu lieu à Bruxelles, se trouvait devant la cour d'assises un professeur d'université, un ancien ministre et deux religieuses. Apparemment des personnes qui n'auraient jamais dû se retrouver devant une cour d'assises. Et donc je pense que le contexte est un élément évidemment déterminant qui permet de comprendre certaines choses, mais j'ajoute de suite qui ne justifie pas. En fait, j'ai rencontré d'abord les logiques collectives. Les logiques collectives, à mon avis, c'est ce contexte qui fait que des gens sont quelque part entraîné à faire des choix dans un contexte déterminé, un contexte effectivement tout à fait extraordinaire et particulier, notamment un contexte de guerre. Mais la deuxième partie, c'est aussi les logiques individuelles, c'est-à-dire les choix et les non-choix qui sont faits par les personnes. Et là, je pense qu'il y a aussi un espace où des gens ont fait des choix qui se sont avérés par la suite criminels. Alors, par rapport à l'histoire, le contexte historique est évidemment, nous sommes l'héritage d'une histoire, mais je veux dire que, de nouveau, l'histoire n'explique pas tout. Maintenant, au-delà du contexte historique, pour moi, il y a le contexte immédiat qui était quand même un contexte d'extrême pauvreté et un contexte aussi de démographie galopante qui fait qu'il y avait une grande pression foncière. Et là, je crois que ça peut créer effectivement auprès de la population une crainte, une peur. Et alors, vous savez, quand une population a des craintes ou des peurs, c'est facile de trouver un bouc émissaire.
Peut-on occulter les causes sociopolitiques de ce qui s'est passé au Rwanda ?
Ah mais non, puisqu'elles sont évidemment déterminantes. C'est le contexte. Donc quand vous dites bien sociopolitique, c'est cette dimension notamment de cause sociale de pauvreté et puis aussi une politique qui a été menée où toutes les causes du mal ont été reportées sur l'ennemi qui a été identifié comme étant le Tutsi. Alors avec la conséquence terrible, c'est que non seulement c'est le Tutsi actuel, mais également le Tutsi dans ses générations futures, c'est-à-dire les enfants. C'est comme ça qu'on s'est pris également aux enfants. Ça a conduit à ce qu'on appelle la solution finale, c'est-à-dire que la paix, on allait l'obtenir en éliminant définitivement l'autre ethnie.
Les éléments que vous avez rassemblés vous font-ils craindre un autre génocide ailleurs dans le monde eu égard au conflit que nous vivons aujourd'hui ?
Alors, quand on analyse les logiques collectives, c'est la recherche d'un pouvoir sans partage, donc c'est un pouvoir absolu, c'est donc éliminer toute forme d'opposition, c'est éventuellement des conditions socio-économiques, vous l'avez dit, sociopolitiques, qui mènent à des formes d'extrémisme, où la solution passe par éventuellement l'élimination de l'autre groupe qui est désigné comme la menace. Je pense qu'il y a malheureusement, on voit, il y a des conflits actuels. Dans tout conflit, il y a cette potentialité de crime contre l'humanité ou même de génocide. La guerre Israël-Palestine, il y a quand même chaque fois des morts importants, des victimes innocentes. Quand on voit en Syrie à l'heure actuelle, et puis il y a tous les autres conflits dont on parle peut-être moins, mais qui existent. Alors, je voudrais quand même faire une petite note positive, c'est que l'Afrique du Sud, pour moi, est un contre-exemple de génocide. En Afrique du Sud, on avait tous les éléments où on aurait pu déraper, et jusqu'à présent, grâce à des personnalités modérées, donc ça veut dire qu'il y a moyen de faire le choix de la modération, on a pu empêcher évidemment que la situation dérape.
C'était Damien van der Merch, auteur de « Comment devient-on génocidaire ?», un ouvrage publié à Bruxelles par Le Grip. En avril dernier, la Cour suprême des États-Unis a rejeté la plainte de la veuve du Nigérian Barinem Kiobel contre la société Shell. Les défenseurs des droits de l'homme à l'époque ont été très déçus. Barinem Kiobel faisait partie du mouvement pour la survie du peuple Ogoni. Avec l'écrivain Kensaro Viva et d'autres, il avait protesté contre les dégâts causés par l'exploitation pétrolière de Shell dans le delta du Niger. C'était sous la dictature de Sani Abacha. Barinem Kiobel, Kensaro Viva et sept autres militants furent condamnés à mort en 1995 et exécutés. La veuve de Kiobel avait porté plainte aux États-Unis contre Shell en l'accusant d'être en partie responsable de la mort des neuf activistes. Si l'affaire a pu être portée devant la justice américaine, c'est en vertu d'une loi qui date de 1789, la Alien Tort Claims Act. Grâce à cette loi, des étrangers peuvent saisir des tribunaux américains et demander des dommages et intérêts en réparation d'atteinte aux droits de l'homme, quel que soit le pays dans lequel les faits se sont produits. Jusqu'à présent, plus d'une centaine de plaintes ont été déposées en vertu de cette loi, par exemple pour des crimes datant du régime de l'apartheid en Afrique du Sud ou encore de la dictature militaire en Argentine. Dans l'affaire Kiobel, en revanche, la Cour suprême a donné une interprétation entièrement nouvelle de la loi. Elle a rejeté la plainte en estimant que la loi en question ne s'appliquait pas à des faits se déroulant en dehors du territoire des États-Unis. Alors à qui s'adresser lorsque des entreprises commerciales, des multinationales, violent les droits de l'homme, à la justice de son pays ou à celle du pays dans lequel l'entreprise a son siège? Théoriquement, les deux sont possibles. Dans la pratique, pourtant, les obstacles sont nombreux, notamment en Allemagne, comme l'explique Michel Winfour, directeur adjoint de l'Institut allemand pour les droits de l'homme.
En Allemagne, un non-européen doit verser une caution pour le dommage que pourrait subir la partie adverse. Cela peut se chiffrer en centaines de milliers d'euros. Un pauvre du delta du Niger n'a pas autant d'argent pour porter plainte.
Une plainte dans son propre pays peut se révéler encore plus difficile, et du moins dans bon nombre de pays d'Afrique et d'Amérique du Sud, par exemple, où la législation sur le travail est défaillante. Les défenseurs des droits de l'homme placent plutôt leurs espoirs dans un texte des Nations Unies dénommé « Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ». Il stipule entre autres que les États ont l'obligation de protéger lorsque des tiers, y compris des entreprises, portent atteinte aux droits de l'homme sur leur territoire et ou sous leur juridiction. On lit également que les entreprises devraient respecter les droits de l'homme ou encore que les États devraient prendre des mesures appropriées pour assurer l'efficacité des mécanismes judiciaires internes lorsqu'ils font face à des atteintes aux droits de l'homme commises par des entreprises. Le problème est que ce texte, adopté en 2011 au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, n'est pas juridiquement contraignant. De là l'appel lancé, entre autres, par un juriste allemand, Jörn von Bernstorff, à l'adoption d'un accord en droit international.
Dans lequel les États s'engagent à ouvrir leurs droits civils et pénal à des plaintes contre des entreprises transnationales présentes sur place ou originaires de ces pays.
L'idée, mais ce n'est peut-être qu'un vœu pieux, serait d'assurer que les entreprises qui signeraient un tel accord n'aient plus, dans les pays en développement et les pays émergents, d'avantages concurrentiels en négligeant la protection de l'environnement, par exemple, ou en ne respectant pas les droits des travailleurs. Nous refermons maintenant ce magazine Droits et Libertés. Merci de nous rester fidèles. Merci également à Jennifer Fratchek qui a préparé le sujet sur les multinationales et les droits de l'homme. Au micro, Marie-Ange Pierron.